Mesdames et messieurs, chers parents, c'est super que vous soyez là. Après une longue journée, faite passablement de préoccupations, de soucis, de questions concernant les enfants, et vous avez la motivation d'être là. C'est super. En ce qui concerne ma motivation, en fait, repose sur le fait que moi je suis aussi parent, parent comme vous. J'ai rencontré maintenant un peu moins de petits enfants, j'ai 4 enfants. J'ai rencontré des soucis, des préoccupations, soit en tant qu'enseignant, aussi en tant qu'enseignant, et puis parent. Alors j'ai un peu la double casquette d'enseignant et de parent. La motivation, pourquoi? Parce que ce que j'ai pu constater, parce que je vous livre ce soir, en fait, ce sont des constats, des réflexions, des interrogations aussi, suite au parcours que j'ai eu dans l'enseignement, ou simplement en tant que parent. Donc je ne pense pas que je vais vous dire des choses extraordinaires, académiques, théoriques ou autres, mais selon moi, c'est des choses relativement simples, mais qui, selon moi, ont beaucoup d'importance et qui peuvent influencer favorablement, voire défavorablement, la motivation de nos enfants. Je suis là parce que je crois qu'on a des pouvoirs en tant que parents. On peut agir, même si nos enfants sont pris en charge depuis déjà tout petit, pendant toute leur scolarité, voire encore après. Malgré ça, malgré le fait qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent d'eux, ben, nous, parents, on a toujours du pouvoir. Et c'est jamais fichu quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui s'aggrave, etc. Il y a toujours des solutions. Ce que je vous dis là, donc, ce sont des constats, des préoccupations, des réflexions, donc je vais susciter votre réflexion. Je ne détiens pas du tout la vérité en matière de motivation, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Alors, ce qui est souhaité, comme a dit le directeur tout à l'heure, c'est qu'après, vous puissiez demander des précisions sur tel ou tel aspect que je vous ai communiqué, transmis, etc. Demander des précisions, ou un approfondissement de telle chose, ou un complément, ou alors simplement de dire, mais ça, je t'appelle à partager ce point de vue, etc. Et puis, je vous demande aussi de trier les choses qui vous concernent directement et vous sentez bien, d'autres un peu moins, d'autres vous faites déjà, on a envie de dire, continuez de faire, et s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, il y a quelque chose en guise d'introduction que je ne voudrais pas m'empêcher de dire, c'est que les principaux concernés de ce soir ne sont pas là. Hein, vos enfants ne sont pas là ce soir. Et ils auraient certainement beaucoup de choses à dire hein, sur les lycées, par exemple, à des ateliers, en se rencontrant parents, enseignants, élèves, enfants, etc. Certainement qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Alors je me suis engagé à vous dire quand même un certain nombre de choses qu'on demandait de vous dire. Ils ont dit ceci, donc ils ont plutôt l'âge de l'école secondaire, voire 5e, 6e, etc., et un peu plus grand, ceux qui ont déjà passé par la scolarité obligatoire. Donc c'est pas moi qui dis ça. Hein. Les adultes doivent commencer par donner connaissance. Il n'y a rien de pire que le fait ce que je dis et pas ce que je fais. On devrait toujours respecter les pensées et les rêves d'un enfant. Ne jamais en rire. Petit, j'avais des rêves et on m'a sans cesse répété que je n'y arriverais jamais. On a cassé toutes mes initiatives. Aujourd'hui, je ne rêve plus. Je vise toujours un peu plus bas pour ne pas être déçu. On est extrait de ça. La base de l'éducation pour moi, c'est le respect. Si tu mets le respect entre toi et les autres, tu n'auras jamais de soucis. Maintenant, les jeunes interviennent par le respect. Et aussi un pédopsychiatre relatait qu'un des mots les plus courants, lorsque il était question seulement de relations avec l'adulte, que disaient les jeunes, et notamment les adolescents, c'est le mot respect. C'est ce qu'on a envie de vivre. Les limites, c'est important, mais il faut toujours expliquer aux enfants pourquoi on les fixe. Un conseil aux parents? Je pense qu'ils devraient être plus à l'écoute de leurs enfants. L'éducation, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Lorsque j'aurai des enfants, je leur mettrai assez de limites pour qu'ils sachent que je les aime. Mes parents m'ont donné de la culture et m'ont fait devenir autonome et conscient des risques de la vie. J'aimerais plus de liberté. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on ne me fait pas confiance. Et aussi, on me fait sans arrêt des et etc. Ils disent beaucoup de choses. J'ai envie de dire quand on les écoute ou quand on sait les écouter. Mais parfois on est là sans toujours savoir comment communiquer avec eux, sans savoir toujours comment écouter ce qu'ils ont envie. Alors dans ce que je vais vous présenter, il y aura un certain nombre d'éléments qui seront en lien direct avec ces aspects-là. Il sera question par conséquent de quand est-ce qu'un enfant est motivé, par conséquent ce que je peux faire, moi, pour qu'il le soit lui également. Il dit, mais donnez-nous l'exemple. Vous êtes motivé d'être ici ce soir, certainement que vous avez de la motivation. Et un des premiers justement critères de transmission de la motivation, c'est comment moi je suis en compagnie par rapport à la motivation. On transmet énormément de choses sans nécessairement. En les disant par la parole, en inquiétant les choses, sans le dire. Alors, il sera un certain nombre d'aspects relatifs aux facteurs sont sous-jacents à la motivation. Mais d'abord, juste quelques éléments pour placer un peu le cadre. Certains d'eux sont motivés, d'autres ne le sont pas. Juste pour vous rappeler qu'il est question ce soir des jeunes, des enfants, des élèves qui ne sont pas motivés, mais tous les autres. De manière générale, le résultat d'une enquête faite auprès des jeunes de l'âge de l'école secondaire, étudiants de l'école primaire, près à environ 90% des jeunes sont bien, ils se sentent bien, donc intéressés par l'école, motivés, etc. Alors souvent, quand ça dysfonctionne, on voit le dysfonctionnement. Alors là aussi, pour la motivation, des motivations, voyons quand vous êtes motivé déjà. Et c'est à partir des situations positives, des situations où l'élève ou l'enfant est motivé, qu'on peut l'aider à imiter les comportements qui démontrent la motivation. Les parents, les enseignants sont motivés, mais ne disposant pas toujours des moyens de motiver les jeunes qui ne le sont pas, ils sont parfois eux aussi démotivés. Ici, pour vous dire, je peux faire en toute humilité. Quelqu'un disait quoi qu'on fasse, de toute façon, on se loue toujours dans l'éducation. Bon, moi, je n'y crois pas tellement, mais parce qu'il y a tellement de manières de. Disons d'être et de faire concernant la situation de tel ou tel enfant. Mais il y a des fois où on est démotivé, puis on est vraiment le moral, et puis on ne sait pas trop comment faire. Ben, première étape, c'est d'accepter. D'accepter ce fait-là. Je ne sais pas toujours comment faire. Un des métiers les plus difficiles au monde, hein, la profession d'enseignant, pas d'apprentissage. Pas d'apprentissage. Pas de formation. Donc il y a de quoi se louper parfois, il y a de quoi ne pas faire tout juste. Donc dans ce sens-là, acceptons et ayons l'humilité de se tromper parfois. Poser la question, mais qu'est-ce que c'est un bon parent? Une des réponses est un bon parent, c'est un parent moyen, pas mal près, pas tout juste. Et puis qui sait reconnaître quand ça n'a pas marché. Le droit à l'erreur. C'est un métier de profession très difficile, sans formation particulière. Donc acceptons aussi que parfois on est démotivé, parfois on en a marre, parfois on n'en veut plus, parfois on aurait envie de ensuite, un certain nombre de questions posent assez rapidement. Si je veux bien comprendre ce qu'est la motivation ou la démotivation, ce serait de s'interroger sur sa propre motivation ou démotivation. Moi, je suis motivé pourquoi? Comment ça se passe quand je suis motivé? Dans quelle situation je suis motivé? Quand je suis démotivé, c'est pourquoi? Etc. Toutes ces questions, là, vous les livre comme ça, assez rapidement. C'est simplement pour se rappeler que si je veux aider mon enfant à identifier, c'est intéressant de savoir ce qui se passe en moi quand je suis motivé par quoi que ce soit. Hein. Et ce qui se passe en moi quand je ne suis pas, et quand c'est difficile, quand m'approcher, etc. Et maintenant, comment est-ce que je me sens par rapport à la motivation, etc. Se positionner soi-même par rapport à la motivation pour mieux comprendre l'enfant et peut-être pour l'aider lui aussi à se positionner de manière à ce que les choses se passent différemment. Ce graphique-là a l'air tout bête, mais qui met en évidence un mécanisme très fort de la motivation, parce qu'en fait c'est quelque chose qui commence très petit, si je peux dire. Bon, certains disent que c'est déjà dans le ventre de la maman, c'est déjà lié à des choses internes, lié à des pulsions, lié à des aspects psychanalytiques. Voyons les choses de manière un peu plus simple en se disant que quand l'enfant était petit, hein, représenté ici par ces flèches, et au fur et à mesure qu'il grandit, donc les parents, la maman surtout, lui donne énormément à l'aider, hein, parce qu'évidemment, il ne sait pas faire grand-chose, il attend tout de ses parents, de sa maman, etc. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les parents se retirent petit à petit, la finalité étant qu'au bout du parcours, l'enfant est autonome, il a suffisamment reçu, hein, il a suffisamment reçu que ses parents puissent. Pour faire ses ressources, ben, lui peut aussi faire sa vie, peut-être faire des enfants, et puis la reproduction, les générations parasitaires. Alors, si vous observez les extrémités de ces flèches, il y a un espace entre les deux. Alors, ce qui se passe par rapport à la motivation, c'est que parfois, la flèche des parents rejoint celle de l'enfant. Ça veut dire que les parents vont au-devant des besoins de l'enfant, sont là pour lui donner plus que ce qu'il faudrait. Ils sont là tellement attentionnés, ils aiment tellement cet enfant, qu'ils lui donnent énormément de choses dont il a besoin, c'est super. Mais par ailleurs, l'enfant souffre d'attente que maman, que papa lui donne ce dont il a besoin. Quand ça ne vient pas, ben, il est là, etc. Dans cette position-là, lorsque les flèches sont trop basses, ça veut dire qu'on ne lui laisse pas l'espace qui l'incite à lui s'engager, faire quelque chose, entreprendre pour réussir à faire ça. Donc une des règles qui est importante, c'est papa, maman, aidez-moi à faire ça. Papa, maman, aidez-moi à faire ça. Naturellement, si vous vous souvenez à un moment donné, qui vous repousse, parce qu'ils veulent essayer de faire ça. Mais souvent, on est pressé, on est à l'enfer à sa place. Et là, se joue déjà pas mal de choses, à faire sa place, alors qu'il est capable de faire un tas de choses. Alors, une première habitude, chaque fois que c'est possible qu'un enfant puisse le faire, laissez-le faire. Ou invitez-le à faire lui-même. Et ça commence par des choses simples. On a toujours. Très souvent l'impression, nous, parents, qui n'arrivent pas, mais que je fatigue, si je n'assiste pas, si je n'aide pas. Le risque, on en fait des assistés. Et alors à l'école, la maîtresse dit, mais si je ne suis pas derrière, il ne fait rien. Parce qu'il a été entraîné à faire seul. Donc l'importance qu'il y ait cet espace entre les deux flèches, pour que l'enfant, à un moment donné, doit se mobiliser lui-même pour faire des choses. Des choses saines. Et parfois ça arrive qu'on a peur qu'il casse, on a peur qu'il ne fait pas juste, etc. Alors on dit, je fais plutôt moi-même. Le droit à l'erreur, ça c'est aussi un élément fort de la motivation. Donnons-lui la possibilité de se tromper, donnons-lui la possibilité de se tromper, donnons-lui la possibilité, bien sûr, dans les mesures de sécurité, etc. Mais aussi un autre exemple, une maman disait, moi, maintenant il sait marcher, j'enlève tout ce qu'il y a à sa hauteur, parce que souvent il casse. Je ne crois pas qu'on aide là, dans ce cas-là, à apprendre à respecter un certain nombre de choses. Ça, c'est ça qu'il ne peut pas toucher. Je vais expliquer, Il insistera peut-être une fois, l'apprendre peut-être deux fois, mais si vous êtes convaincu, alors si un aspect fort, hein, si je suis convaincu du message que je transmets, hein, moi-même, j'ai la conviction. Je le vis en me positionnant clairement. Et que je ne modifie pas d'un jour à l'autre une règle de l'enfant, je suis sûr qu'il intègre facilement et il sera davantage en meilleure condition pour l'enfant, donc motivé, intéressé, concerné. Ça arrive souvent qu'à l'école, l'enfant doit dépenser beaucoup d'énergie pour s'adapter aux règles, pour s'adapter aux exigences de l'école. Alors, s'il a déjà été entraîné à respecter certaines règles, certaines exigences, etc., souvent, on dit « ouais, mais ça va encore plus tard, c'est petit encore ». C'est vrai, on peut les aimer, mais on peut les entraîner aussi à respecter un cadre, des règles, etc. Quand il sera en place, il sera en meilleure condition pour apprendre. Il n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie à intégrer la règle, à respecter la règle, à parfois devoir peut-être selon l'âge avoir des punitions ou que c'est des conséquences difficiles à supporter pour lui. Donc, un aspect lié à la motivation qui a son importance, c'est le fait que cette flèche risque de descendre trop bas et de faire des assistés qui n'ont plus besoin d'obtenir quelque chose parce qu'ils ont. On va au camp, où après c'est préparer le sac pour l'école, c'est préparer le sac pour le sport, etc. Il ne faut pas oublier ceci, etc. Et on les accompagne souvent jusque très grands, hein, en secondaire parfois, quand il est le mien, il oublie tout. Est-ce qu'on lui a laissé une oublier les conséquences de quoi se porter lui, hein, voilà, des aspects liés à la motivation. Je passe à un autre aspect, c'est lorsque il y a trop d'écart entre les deux flèches. C'est-à-dire que l'enfant, il y a trop de vide. Il y a trop de vide, il y a trop d'espace, il ne sait pas à quoi se raccrocher. Alors, il attend. Il attend aussi, c'est de la démotivation. On va le voir après, à travers les styles éducatifs, la manière de communiquer avec son enfant. Il y a des manières qui sont très motivantes, qui développent justement l'intérêt que l'enfant de grandir, de se développer. Il y a des styles, au contraire, qui retiennent, etc. Enfin, à ces enfants, on prend les aime tellement, on les adore tellement, que quelque part, on les entoure bien, hein, c'est super. Mais ils sont faits pour que les bras s'ouvrent, qu'ils puissent partir, qu'ils puissent devenir autonomes. Hein. Une maman disait, mais je ne sais pas ce qui arrive, pourtant j'ai tout fait pour mon enfant. Tout fait. Juste cette caricature-là, pour rappeler que on parle, si vous voulez, de ce qui se rapporte au pouvoir des parents, de la famille. Parce de son côté, l'école se trouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle regarde les enseignants, les responsables d'école, et essaie de voir qu'est-ce que dans le cadre de l'école, il est possible de faire pour motiver les élèves, pour qu'ils soient intéressés par l'école et qu'ils fassent de bons apprentissages. Plutôt que d'être dans la situation où on dit mais que fait l'école, comment ça se fait que, si je compare les résultats de mon enfant avec les résultats de son cousin du même âge, etc. Ils n'ont pas le même niveau, comment ça se fait ici, dans cette école, etc. La tendance, quand ça dysfonctionne, c'est d'aller chercher les responsables ailleurs, c'est de porter des jugements, voire même de faire des procès. Alors, on entend de plus en plus souvent lors des résultats des examens, des promotions et autres, ça va loin. Alors, la démarche que je vous propose, ce n'est pas de positionner en tant que juge, en disant les uns ont raison, les autres ont tort, etc. Et puis de porter des accusations. Je vais bien donner cette anecdote-là, que j'ai donnée aux enseignants tout à l'heure, c'est parce que l'enfant se noie, hein, à mesure où nous adultes, on cherche les responsables, on s'accuse, etc. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quel est la mission de chacun, etc. C'est cette maman qui arrive à la caisse d'un magasin et puis avec son enfant de 7 ans. C'est une histoire vraie, enfin, avec son enfant de 7 ans, sa petite fille, et puis la maman connaît la caissière, elle connaît la famille, etc. Et la petite, et lui donne un chocolat. La petite. Et puis la petite prend le chocolat, etc. Elle ne dit pas le mot magique. Pas merci. La maman va reprendre, il n'y a rien qui se passe. La réflexion de la maman, il y aura quand même. les maîtresses d'école en tout cas disaient ceci, si les enfants connaissaient avant d'entrer à l'école les cinq règles de la main, simplement les cinq règles de la main, ce serait déjà un peu. Alors les cinq règles de la main, je ne sais pas si vous les connaissez, vous avez entendu parler. C'est bon. C'est s'il te plaît. Merci. Excuse-moi. Au revoir. Vraiment, c'est ça, c'est pas la peine. Si les enfants n'intègrent pas, c'est pas seulement des mots, c'est qu'ils ont appris à être en communication, en relation avec la vie, avec les parents, avec les enseignants, d'une autre manière que les parents, les enseignants sont à ma disposition pour satisfaire mes droits, mes désirs et autres. J'ai mis cette caricature-là aussi parce que, à l'école, en fait, on lui demande beaucoup à cette école. On lui demande beaucoup, je dirais, elle n'est pas simplement imaginée. Elle a besoin de vous et de votre compréhension pour se mettre ensemble. Hein, il y avait dans ce titre relation famille-école, se mettre ensemble justement pour accompagner ces jeunes. Parce qu'il y a d'autres attentes, autres que celles des parents directement ou de l'école, qui est censé aider ses enfants à grandir, à être motivés. Surtout avoir l'envie d'apprendre et le plaisir de connaître, qu'il y avait dans ce livre, donner l'envie d'apprendre et le plaisir de connaître. Et souvent, comme pas au bout du parcours, ben, il y a beaucoup de jeunes, il y en a pas mal, puisque d'une manière générale, en Suisse romande, bon, dans le canton de Neuchâtel, par rapport au renouvellement, par rapport aux délais qui échouent, ce n'est pas le premier canton romain, vraiment, où il y a le plus d'échecs de renouvellement. Le premier canton romain, c'est le canton nouveau, c'est une vallée. Ouais, je vous disais ça pour dire que en fait, j'ai pas mal marqué. Comment? Ouais, de l'école, je dirais, il y a beaucoup d'attentes. Il y a l'attente des parents, l'attente des enseignants, mais il y a des attentes du monde économique. Il y a de fortes attentes pour passer des examens, pour réussir, et aujourd'hui, pour avoir le meilleur. Avoir le meilleur statut social, si possible être le meilleur, le premier, etc. Après, être efficace, être productif, être rentable, c'est surtout ça hein, qui guide et qui conditionne l'école. Si vous demandez aux enseignants ce qu'ils souhaiteraient pour leur enfant, ce n'est pas seulement des têtes bien pleines, mais aussi des têtes bien faites, il y a tout le développement global, harmonieux qui fait qu'on peut réussir dans la vie même si on n'a pas le beau diplôme ou le meilleur statut social. Donc il y a des attentes très fortes du monde économique. Alors à l'école, on lui demande beaucoup de choses, mais on mesure essentiellement des résultats académiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des recherches PISA, pas internationales, des pays de l'OCDE. Il y a des classements qui se font sur les meilleures écoles, les meilleurs pays, etc. Et quand on mesure la valeur de ces écoles, on mesure surtout les aspects académiques, hein, les sciences, les maths, les langues, etc. Et pas tellement le développement global. Il y a un tas de choses qu'on leur apprend à l'école. Du type je dirais de la revue d'éducateur, tout ce qu'on enseigne aux élèves, hein, mis à part grammaire, orthographe, langue, etc., qui n'est pris en compte que depuis peu. Éducation à la citoyenneté, éducation à l'environnement, éducation au développement durable, à la santé, avec la diététique, la sexualité, la contraception, la politique, la maladie, les drogues, le sida, les infections sexuellement transmissibles, éducation à l'image et aux médias. L'éducation du jeune consommateur, l'éducation à la sécurité routière, aux techniques d'information et de communication, sans oublier les cultures scientifiques, artistiques, esthétiques, la connaissance des métiers, etc. Il y a de quoi être tiraillé. Hein. Alors, ce que je trouve qui est difficile maintenant, c'est justement de se positionner clairement pour des finalités, des objectifs qui touchent, c'est vrai, les connaissances de base, mais le développement de la personne. Faire des enfants ou aider des enfants à devenir beaucoup plus en situation d'harmonie, d'épanouissement personnel. Nous disent que c'est des mots, etc. Mais l'influence justement des parents, des familles et du monde extérieur de l'école est très important parce qu'en fait, on a l'école, entre guillemets, on a l'école qu'on mérite. Alors, est-ce que c'est une école justement de la sélection, une école de la formation, une école du développement global de l'enfant, ou une école où on fait surtout des têtes bien remplies? Ça, c'est aussi une question. Ça influence aussi énormément la motivation des élèves, dans la mesure où le discours qui est tenu par rapport à l'école, hélas, c'est souvent un discours assez négatif. L'école de ceci, pas seulement à la fois, qui est on lui demande énormément de choses. Alors, dans ce contexte-là, j'ai parfois envie des critiques par rapport aux enseignants, etc. Je pense à une publicité qui était faite en Amérique pour recruter des enseignants, hein, parce que les périodes où c'est vraiment difficile de recruter des enseignants. Soit un héros devient enseignant. J'ai vu aussi le résultat d'une enquête faite en Belgique pour ces points chez nous, etc. Mais il y avait X milliers d'enseignants qui avaient fait une assurance. Contre l'agression. Puis entre 2000 et 2008, il y avait une augmentation du demande de cette assurance de protection. Bon, on n'en est pas là, juste pour vous dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Alors quand les enfants vivent essentiellement dans le contexte de la note, des résultats, d'être si possible dans les meilleurs, mais que l'enfant ne répond pas toujours à nos attentes, donc partie des problèmes pour la faire pousser. Souvent cet aspect de développement global qui permet justement de réussir peut-être aussi autrement, avec tous ces exemples de personnes que vous côtoyez à l'école, et qui n'étaient pas nécessairement pris en école, qui ont une vie équilibrée, une vie de stage, et puis harmonieuse aussi. Donc l'important justement aussi de relativiser. Ça motive aussi le fait qu'il n'y a pas que le résultat scolaire. Parce que pour certains élèves, c'est un peu trop dur de répondre aux attentes, aux exigences, etc. Par conséquent, on a des enfants, parfois, c'est super, ils réussissent bien, ils répondent aux critères de l'école, mais on a parfois des enfants qui sont peu motivés, pas motivés, ou qui ont des résistances par rapport à certains apprentissages scolaires ou autres, ou qui ont certains handicaps. Alors, quelque chose qui est vraiment fort, qui est important, et auquel l'enfant est très sensible, c'est d'accepter l'enfant tel qu'il est, et de le reconnaître. Ça, c'est la première étape. Mais nous, on aimerait toujours qu'il soit mieux, qu'il fasse mieux. Super d'un côté. Mais si lui est toujours dans la situation où il a l'impression de ne pas pouvoir répondre aux attentes des parents, pas pouvoir répondre à ce qui est souhaité par les adultes, pas facile de vivre. Alors, accepter, reconnaître mon enfant déprimé, ça c'est le départ du plan de motivation. Je vais vers lui et je me mets à la hauteur et puis j'essaie de comprendre ce qu'il comprend. Et après, je l'aide à apprendre. Je vais chercher de là où il est. Ça, c'est un élément fort. Accepter, reconnaître mon enfant déprimé, il y a quelque chose de fort aussi, c'est de croire en son développement. Croire qu'il va évoluer, qu'il grandit, etc. J'ai jamais eu de frein, même chez des enfants qui avaient des handicaps très forts, dont les apprentissages scolaires étaient très difficiles, on n'a jamais pu mettre de limite dans le développement. Ça c'est important. Si on intègre ces aspects-là, ça n'a l'air de rien, on communique d'une autre manière. Si j'accepte et je reconnais ce qu'il est, si je crois à son évolution, on transmet sans des mots. Simplement par nos attitudes, par un regard sur l'enfant dans telle ou telle situation, ça l'aide à grandir, à développer, ou alors ça le passe, ça le casse. Le parcours, c'est un enfant qui disait, mais ça le casse et puis le troisième critère, c'est faire confiance. Accepter l'enfant tel qu'il est. Croire qu'il va évoluer. Il va grandir, il va se développer. Faire confiance. Alors dans la motivation, la confiance, vraiment cet amenement. Ses parents qui disent qu'il va naître. Un enfant, il pourra apprendre. Donc s'il apprend, il doit. C'est normal qu'il se trompe. C'est normal qu'il ne fait pas tout juste. S'il ne lui donne pas une chance, il ne fait pas tout juste. Je l'empêche d'oser. Je l'empêche d'entreprendre. Je l'empêche de prendre des risques. Je sais si on dit aujourd'hui qu'il prend une initiative, Pardon, c'est parfois on a le droit à l'erreur, pas facile. Voilà. Donc voilà aussi un élément important.
Par rapport à ce qui va être dans l'école, voilà, je ne peux pas trop commentaire, hein, c'est comment quand on est une idée. C'est assez bien illustré par l'attitude de l'enfant, l'attitude de l'enfant, pardon, qui est heureux, qui est heureux, qui est épanoui, qui est désigné, etc. Maîtresse d'école disait, je n'ai plus, j'ai plus des élèves, j'ai devant moi des clients, hein, comme des clients. Quand je leur dis qu'on va faire de la lecture, ils me répondent qu'ils n'ont pas envie. Là aussi, alors, il y a le côté plaisir, intérêt, etc. On est motivé, on est heureux, on est détendu, etc. Est-ce que c'est dissociable de devoir faire un effort, de devoir s'accrocher, de devoir se lever, de devoir changer, de devoir persévérer, de devoir surmonter un obstacle, etc. Si on enlève tous les obstacles, comme on a dit tout à l'heure, l'enfant ne s'entraîne pas aussi à s'aguerrir, à prendre confiance en lui, à solliciter ses ressources parce qu'il en a. Si on laisse les utiliser, on n'est pas tout de suite à son secours, etc. Savoir reconnaître les sentiments de l'adolescent. Bon, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais je vous laisse simplement découvrir la caricature. Qu'il soit révolté, heureux, amoureux, désespéré, enthousiaste ou complexé, difficile à voir. Chez les plus petits, c'est plus facile. Ils expriment, quand ils arrivent à l'école, ils jettent la serviette par terre, ça va chez beaucoup de choses, ou au contraire, saute dans les bras, tout le monde, le papa, etc. Ils expriment, hein, après, quand ils arrivent à cet âge, pas facile du tout. Et puis, parce qu'il bon, y a tellement de choses, ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve plus rien, qu'on fait bien. Il manifeste. Alors là, d'aller chercher, plutôt que de déduire, c'est un nul, blasé, pas capable, ça c'est aussi des étiquettes qui emprisonnent, des étiquettes qui empêchent de changer de croire qu'il a des choses. Parce que ça c'est souvent une marque de protection, hein. Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de lui, d'elle, des transformations physiques, des transformations psychologiques, psychiques et autres qui font que, il a la peine à se situer, et puis il y a un moment donné où par rapport aux parents, il faut dire qu'il faut prendre la distance. Hein. Théoriquement, les parents ne sont pas sur le même. Et puis, à la fois, les parents disent que ce n'est pas l'adolescent qui est en bref, il y a tout ça, il y a cette recherche pour être confronté à l'autorité, etc. Pense à l'autorité, aux limites, etc. Pense à ce papa qui, avec des adolescents, ça n'a vraiment pas joué. Ça n'a vraiment pas joué. Il y a des échecs scolaires, il y a des atolls, etc. Vous pouvez constater, entre guillemets, les dégâts. Il a dit, c'était en parenthèse, un ex 60 plus tard. Interdit, etc. En voyant bien faire, effectivement, il dit très peu de cas. Et puis, alors, il dit, voilà. Je constate maintenant, malheureusement, c'est qu'un enfant, quand il tape, ou un adolescent, tape la tête contre le mur, ça fait mal. Or, chez moi, il n'y avait pas de mur. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de plus. Si bien qu'il y avait des dérapages, on imagine. Cette caricature aussi, et on le verra tout à l'heure aussi, pour dire l'importance que ça a de prendre en compte ce que l'enfant ressent. Ses colères, ses peurs, c'est prendre en compte, c'est reconnaître. Et tu as peur lorsque tu es triste quand tu es énervé, parce que tu as une mauvaise note, il y a une dispute avec les camarades, tu es triste, de reconnaître ce qu'il ressent. Nous, on a tendance à dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, et puis l'autre, etc. Tout de suite, nous, on est dans le cérébral, lui, il est dans l'émotionnel. Bon, mon collard, c'est bien que ça se passe dans le cerveau, mais le cœur, l'engagement du cœur. Hein. Alors, à travers, justement, le moteur de la motivation, c'est notre manière de communiquer, de reconnaître l'émotion chez l'enfant, d'abord. Et puis après, dans un deuxième temps, alors, chercher avec lui, chercher des solutions, et qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu pourrais lui faire, comment tu pourrais lui prendre, etc. Ça, on dit que c'est l'ordre du cérébral. Là, il sera très disponible pour entrer dans ce discours-là, après avoir été entendu sur sa colère, sa tristesse, sa peur, et lui donner ainsi la possibilité d'exprimer tout ça. Parce que, il est inutile de dire que, il y a des enfants qui sont dans la souffrance et qui ne pouvant pas exprimer un certain nombre de choses intérieures, recouvrent, et parfois ça peut faire des dégâts. L'enfant est motivé lorsqu'il comprend. Ça a l'air banal, mais nous on aimerait qu'il comprenne presque sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Bon, on dirait que c'est à l'école à expliquer, c'est vrai. Si j'explique trop à la maison, c'est aux enfants qu'on se dit de toute façon maman, papa, ils vont m'expliquer. C'est intéressant de se parler, justement, pour vous vérifier un certain nombre de choses. Parce que si vous devez trop expliquer, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Lui compte sur vous parce que vous l'avez toujours aidé, c'est super, c'est confortable. Maintenant, lui ne se mobilise pas, soit en classe pour être concentré, pour étudier et poursuivre les projets proposés par les enseignants, et puis il attend, il est en position d'attente, etc. L'enfant est motivé lorsqu'il comprend. Là aussi un exemple de ces enfants qui parlaient de leur maîtresse et qui disaient qu'elle était super, qui leur demandaient pourquoi elle pouvait être super. Alors on disait parce qu'elle explique quand on ne comprend pas. Et qu'elle explique encore une fois si on n'a pas compris. Et puis elle ne rit jamais si on s'est trompé. Et qu'elle laisse parler des autres dans leur entourage. Ça a l'air simple, ça a l'air banal, mais ça c'est des sacrés. Comment dire, une valeur qui permet justement à l'enfant de continuer d'apprendre, de ne croire pas croire que t'es nul, qu'il n'est pas capable, etc. C'est étiquette, t'es nul, t'es pas capable, t'es pas bon en maths, et tu fais des fautes, etc. Il y a rien qui périt pour enfermer l'enfant, pour l'empêcher justement d'être intéressé, de se motiver et concerné par les apprentissages. Ça emprisonne, ça met une étiquette, puis l'enfant de la confiance à devenir. C'est comme quand on dit un enfant, parce qu'il a volé quelque chose, il a menti une fois, t'es un voleur, t'es un menteur. Non, dans cette situation-là, t'as pris quelque chose qui n'était pas à toi. Ça, on ne peut pas. Il faut maintenant réparer. Ça change tout que t'es un voleur, t'es un menteur, etc. Parce qu'il n'est pas que ça, qu'il a commis un acte délictueux, ou s'il s'est trompé à l'école, ou il a fait faux. C'est pas pour ça qu'il est mis en masse, c'est pas pour ça que c'est un menteur. Là aussi, ça tient un peu de mots, mais c'est des mots, comme une fois, qui ouvrent, qui donnent l'envie à l'enfant de grandir, ou des mots qui ferment, qui emprisonnent, et puis qui font que, comme une peur, ça se passe, elle s'étonne, et puis elle peut se mourir. L'enfant est motivé lorsqu'il réussit. On ne peut pas parler de la réussite des échecs. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? On pourrait parler longtemps. Toute une soirée, ça voudrait réussir et échouer. Quelqu'un disait c'est avoir sa Rolex à 50 ans. Quelqu'un disait réussir, c'est réussir dans sa vie ou réussir sa vie. C'est une sacrée différence. Ce que ça veut dire réussir, c'est atteindre des objectifs moraux, avoir une bonne note, c'est se sentir bien, c'est être épanoui, etc. Je crois que j'ai entendu parler du phénomène du yakitomori au Japon. Les attentes sont tellement fortes pour la réussite à l'école que les enfants, après l'école, ils ont encore l'école. Les jours de congé, ils vont encore à l'école, mais dans des écoles privées, dans des cours du soir, etc. Et le samedi, voire le dimanche même. Notre objectif, c'est d'aller dans l'université la plus prestigieuse pour se faire, il faut y aller, etc. Alors, il faut dire qu'il y a une sélection très forte, il y a un type qui se fait, je dirais, naturellement, il y a tout ce le phénomène du bien qui faut mourir, c'est ce qui craque. À un moment donné, ces jeunes s'enferment dans leur chambre à table de tour, ils ne peuvent plus voir personne, ils ne peuvent ni boire, ni manger, etc. On va franchir la porte pour les sauver d'une chute au-delà de ce qu'ils dans le vide. Arrêtez la terre, je veux descendre. C'est inscrit sur les murs d'un collège à Rosa. Arrêtez la terre, je veux descendre. Quelle perspective, justement, quel langage, comment décrire le monde, comment nous, on est dans ce monde, on dirait que ça a une sacrée influence sur la motivation, l'intérêt pour apprendre, etc. des choses très, très fortes dans ce sens-là. Hein. Comme je vous ai dit avant, des mauvais tu m'as déçu, je n'ai plus confiance en toi. Alors, justement, ce sens de la réussite et de l'échec, la relativité de la note, l'arbitrarité de la norme, c'est relatif en fait, hein, selon les époques, selon les cultures, où on met la barre, qui dit que c'est réussi, c'est échoué. J'aime bien cette caractéristique parce que, en fait, c'est l'ombre de l'élève qui est projetée sur l'échelle. Hein. C'est pas l'élève. Ça permet bien de dissocier, de relativiser ce qui est du domaine du résultat scolaire, ce qui est du domaine de l'élève. On est à l'école obligatoire, c'est-à-dire que par des écoles supérieures, j'ai un autre langage, c'est des écoles qui sélectionnent et qui forment dans des directions pointues, etc. Mais si on est à l'école obligatoire, développement global de l'enfant, donner l'envie d'apprendre, plaisir de bonheur, école, plateforme de lancement pour découvrir le monde, pour avoir l'envie de découvrir ce monde, c'est tout autre chose. Hein. Relativité de la note, plus dans les deux éléments. Selon une étude, là, le 80% de ce qu'un enfant a dû mémoriser comme fait, 80% est publié après 15 mois. Qui s'est montré essentiellement et uniquement sur la mémorisation. Il n'y a pas que ça à l'école. Juste pour vous dire, quand on inculque étymologiquement, ça veut dire faire entrer à pompier. Comme le travail, étymologiquement, c'est un outil de torture. Aussi, par rapport au travail, juste en parenthèse, moi, combien de burn-out, combien de suicides même, pour tout ça, il y a des émissions, et l'exigence de burn-out, de burn-out, ceux qui venaient malades, qui travaillaient faux, et qui restaient quand même sur le travail, et ceux qui devaient s'attendre. Quand vous me direz que savoir à l'école et autres, simplement, on prend pour relativiser la note, la réussite à l'école. C'est prédictif, la note. Jusque dans les 2 ou 3 ans, au-delà, c'est plus prédit. On dit qu'il y a des élèves qui, à l'école obligatoire, n'ont pas très bien nécessairement réussi, mais très bien réussi par la suite, remotivés parce qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font. Donc rien n'est perdu, etc. Et il y a de quoi mettre des aspects du développement global, apprendre à vivre ensemble. On a ouvert l'école à tous, que le plus fort gagne. Donc si j'aimerais que cette école soit aussi une école de la formation, plus que de la sélection, si c'était possible, et ça c'est tout possible dans nos pensées, dans nos états d'esprit, dans la communication avec l'école, avec les enseignants, etc., de penser à qu'est-ce qui est essentiel pour mon enfant, c'est essentiel justement d'avoir un diplôme, d'être coaché, etc. C'est essentiel qu'il y ait une bonne formation de base, mais surtout qu'il ait l'envie d'apprendre et du plaisir de connaître. Les freins, les résistances là, qui retient justement des élèves, j'ai relevé surprotection. Parce qu'il n'arrive plus à se débrouiller tout seul si je vais à sa place, si je le protège trop. Il n'apprend pas en apportant ses ressources, puisque je suis là chaque fois pour le sauver ou faire à sa place. Donc un des freins, une des résistances à la motivation, c'est la situation. Je le fais trop pour lui. J'en fais un assisté. Un autre frein, c'est le laxisme. Je laisse tout faire. Parfois, ça c'est dur après la vie, je vais avoir bien des difficultés. Donc, laxisme, etc. Ça c'est aussi une certaine résistance, un sacré frein à la motivation. Un autre frein à la motivation, c'est l'inverse. C'est comme ça, moi c'est tout. Si tu ne fais pas ça, on verra après dans les études éducatives, en forme de synthèse, c'est par force de dire comme ça. Simplement en passant, il faudrait pouvoir les entraîner, ces outils de la communication, ceux qui favorisent justement la motivation et qui laisse pas mal d'autonomie à l'enfant, mais dans un cadre assez précis. Le message veut, peut-être ça vous dit quelque chose, certainement un certain nombre de personnes, mais le message veut, donc, c'est important pour l'enfant qu'il sente que l'adulte se positionne clairement par rapport à ce qui est attendu, aux exigences. Voilà, j'aimerais que dans cette situation, etc., je peux aussi dire ce que je ressens, hein, si je veux que je puisse exprimer aussi ce qu'il ressent, si je lui dis, moi je suis en colère lorsque tu fais ça ou ça, ou je suis triste quand. Je n'ai pas, tu vois, maintenant, les notes que j'ai peur pour toi, etc. Donc, moi, j'ai peur, mais je me laisse à l'initiative. C'est notre, c'est ta colère, c'est ta vie. Moi, je suis là pour l'aider, etc. Moi, ça me fait peur. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire de ça, etc. Donc, dans le message jeu, ça permet à l'enfant d'entendre un adulte qui est bien positionné par rapport à ses exigences, et puis qui tient. Qui tient, c'est pas un jour comme ceci, un jour comme ça, ou de nos humeurs. Ouais, on est des humains, on n'est pas des robots, mais sur les choses essentielles, et ça aide énormément sa sécurité d'un enfant si on a la même vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on prend en compte le fait qu'il grandit, qu'il évolue, et qu'il n'a pas besoin des mêmes règles quand il a 6-7 ans, quand il a 14-15. Donc le message, l'écoute active, donc le message, c'est quand lui fait des choses qui font problème chez moi. Alors là, je me positionne clairement, je ne suis pas d'accord, et si c'est. Il y a une réparation, ben, il faut en parler, fais quelque chose, dis quelque chose et vont lui faire, ou fais quelque chose qui prend problème chez moi. Mais ça, quand c'est lui qui a un problème, qui s'est fait, il est en dispute avec ses camarades, ou ça a mal marché avec tel prof, etc., ou il a des mauvais résultats scolaires, c'est son problème. C'est-à-dire que je m'en fiche, mais je l'écoute. Et puis triste, il est en colère, lui disait tout à l'heure. Et après, tout en lui laissant le problème, je l'aide à voir qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un mauvais résultat scolaire, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as préparé cet examen, comment tu t'es pris, quel temps tu penses que tu as mis, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, est-ce que etc. Je l'aide à voir et par conséquent, comment tu vas te prendre pour la prochaine fois, quand est-ce que tu as ton prochain examen, etc. Là, je suis là, pas pour prendre sur moi ou pour l'anglais, ah, tu seras privé de ceci, ou on avait prévu dimanche de faire ça, etc. Et là, notre vue, là, c'est pas possible. Le résultat d'un examen, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'examen en soi, c'est ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on fait de son résultat et là, ça commence justement l'action. Alors l'écoute active consiste à laisser le problème à l'enfant, mais aller à le comprenant ce qu'il ressent, et en l'aidant ensuite à remédier, à réajuster, à bloquer une attitude qui est déjà très difficile. Puis la méthode de gestion ou prévention de conflit, c'est quand il fait des choses, ça fait problème à moi, ça fait problème à lui parce qu'il a encore toujours répété, il a dit, etc. Donc à un moment donné, toi tu souffres, moi j'en ai marre aussi, allez, on se met ensemble, quelle solution ? Voilà, c'est le problème chez moi, quelle solution ? On cherche ensemble, on aide l'enfant justement à réfléchir, à analyser, puis surtout on aide à développer de l'empathie, à se mettre à la place de l'adulte et s'apercevoir que l'adulte ne sait pas. N'est pas à son service. Hein. Maman, c'est pas celle qui doit tout faire, papa, c'est celui qui doit résoudre tous les problèmes, etc. Hein. Le papa, maman, ils ont leur vie, le privé, ils ont leur vie professionnelle, ils ont leur vie à la petite, ils ne sont pas au service, qu'au service de l'enfant. Ils sont là pour l'aider, l'accompagner, etc. Ça, ce sont des aspects, des éléments, des outils qui aident que l'enfant à grandir. Ça a l'air de rien, mais à travers justement des attitudes, des comportements, c'est... et l'enfant est motivé quand il a un projet. Quand il sait ce qui est bien, parce que souvent, on a de la peine à dire que c'est bien quand il fait ça. C'est génial. Ça. Reconnaître et lui donner une quittance positive. On a tendance à voir, ouais, t'as pas fait ceci, t'as pas fait ça, etc. Vous direz, parfois c'est difficile avec tel enfant de voir ce qui est bien. Selon les lunettes que vous mettez, vous verrez toujours. Et commencer par ça, ça c'est motivant. Là on construit des choses. Hein, je veux dire, il manque ceci, il manque ça, c'est pas le jeu, etc. Hein, la motivation. C'est comme l'enfant qui reçoit, quand il a des difficultés en entourage, il reçoit toujours des notes négatives. Quel sens ça a pour lui ? De toute façon, je ne suis pas capable, etc. Alors là, c'est, voilà, quand on fait une analyse, on discute ensemble, on fait le bilan d'une journée, d'une semaine. semaine ou d'une étape, selon l'âge. Ah, il y a des choses qui se passent, c'est génial. Ça, ça vaut le coup pour conserver, etc. Et puis on l'aide ainsi à réfléchir. Parce que souvent, il y a besoin de nos miroirs pour se voir grandir, de développer des habitudes, les plus favorables à l'habitude, etc. Ça, par contre, il faudrait que tu fasses moins souvent, ou que tu sois moins souvent sur ça. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais d'après les remarques que tu entends, ou des discussions pour moi, qu'est-ce que tu penses que, etc., tu ferais vraiment à la remettre comme projet, etc. Puis on vous donne un temps, puis on vous donne du temps, etc. L'enfant, là, se sent accompagné, guidé, n'est pas abandonné, même si lorsqu'il a un problème, je lui laisse le problème, je suis là. Hein, je suis là, moi, je suis. Comment dire, en tant que parent, j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience, je peux l'aider pour qu'il puisse compter sur moi, sur la vie, etc. Donc, lorsqu'il a un projet, dans le cas contraire, je suis dans la forêt, je dois marcher, je ne sais pas où on va s'arrêter, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de relais, puis ça fait déjà un moment qu'on marche, je suis fatigué, je n'ai pas le ravitaillement qu'il faut, je vais dire de la motivation. Et si je sais que je dois aller là, à quel endroit on peut se ravitailler, on peut s'arrêter, etc. J'en ai tout. Voilà, autre facteur de motivation, c'est la satisfaction de ses besoins. Donc là, ça n'est pas la réponse à des désirs de l'enfant, parce que les désirs sont incalculables et sans limite. Pour nous aussi, hein. On aimerait ceci, on aimerait cela, etc. Hein, les désirs. À distinguer les désirs des besoins. Hein, il a besoin d'une paire de chaussures, il a besoin des lunettes de ski, etc. Mais est-ce qu'il a besoin des chaussures à 250 francs, des lunettes à 300 francs, ou bien c'est la réponse à un désir, peut-être marre, je sais pas, chez les ados, par exemple, des choses qui peuvent se négocier, qui peuvent se discuter, etc. Enfin bref, il y a des besoins qui sont vraiment indispensables pour que l'enfant soit motivé. C'est les besoins dits physiologiques, c'est ceux qui sont bas de la pyramide, c'est basique. Au cœur des poumons, l'ensemble des besoins sont satisfaits, théoriques, je dirais. L'enfant est en bonne condition. Quand il est motivé, il est intéressé, il est concerné, il est impliqué. Alors, ses besoins, très rapidement, besoins physiologiques. Est-ce qu'il a des heures de sommeil, selon l'âge qu'il a ? Il est bien reposé. Est-ce qu'il a des activités de détente qui permettent justement d'alterner les mérites de l'intensité, justement beaucoup de qui sollicitent beaucoup, qui a boire, manger, dormir. Des enfants qui arrivent à l'école, pas l'habitude du déjeuner, tout de suite, après un certain temps, la matinée, plus de concentration, donc plus de motivation, plus d'intérêt pour l'école, etc. C'est ce qu'on aime, hein. Membre affamé, pas d'horreur. Besoin physiologique, spatial, besoin de sécurité, si l'enfant se sent menacé. En Suisse, 10% d'enfants qui sont angoissés. Angoissés d'une manière générale, angoissés par l'école, peur des camarades, peur du mobile, peur de raquettes, etc. Comment je peux sécuriser, échanger, discuter, écouter, discuter avec les enseignants pour ça où il y a des situations difficiles et graves. Parfois, on voit des enfants plus motivés du tout, comment qu'est-ce qui se passe, etc. Parfois, on peut aller chercher du moins un petit peu derrière ce qui se passe. Besoin de sécurité, besoin sociaux. L'enfant n'est pas motivé s'il est mal dans sa classe. Il n'a pas sa place dans sa classe. Il n'est pas en bonne relation avec les autres. Il dit, c'est normal, il y a des disputes, tout à fait. Mais quand c'est pesant, quand c'est dans le temps, c'est plus difficile. Je pense à une fille de l'école secondaire qui systématiquement, quotidiennement, se faisait assaillir de mots agressifs, plus vaches, etc. Systématiquement, ça n'a l'air de rien. C'est une violence psychologique plus forte parfois que toutes les coups. Et puis cet enfant, est-il de dire, mal dans sa peau, pas de moyen de réagir, aide de ses parents pour essayer de comprendre l'attitude, essayer pas plus de terrain, on connaît, il faut que les adultes s'en mettent. Des fois, il y a des situations vraiment catastrophiques. 10-12% d'enfants angoissés ou raquettés, ou, c'est important. Donc, quand il n'y a pas de motivation, comme tout à coup, ça coule, et si on veut voir qu'il y a un besoin d'être en bonne relation avec les autres, besoin affectif, ça se trouve là, besoin affectif, besoin d'être aimé, tout simplement. Des mots de reconnaissance, avoir des mots, ce qu'on dit bien, qu'on précise, que l'enfant reçoit en disant, ben voilà, là je suis quelqu'un, je suis capable, je suis
qualités, même si je me donne là, ici, etc. Ça, ça aide, ça te demande la motivation. Nous aussi, c'est pareil. Besoin égotique, besoin d'avoir une image de soi positive. À la fin, c'est ce qu'il veut dire, je n'aime pas de beaux jeunes hommes, de beaux belles filles, c'est vrai que pas chez moi, c'est pas facile de dire ça. Donc, simplement être aussi dans ce cas-là, être à l'écoute et l'aider à faire miroir petit à petit le jeune enfant puisse se voir positivement, estime de soi, confiance en soi. C'est des éléments forts, besoin d'appartenir à un groupe, à une famille. Ça, c'est des éléments moteurs de la motivation. Quand l'enfant a la déprime, je l'ai mis parce qu'on croit que c'est une affaire d'adulte. Non, il y a des plus chez les enfants. Il y a de la souffrance chez les enfants. Quand ils ne sont pas motivés, c'est qu'il y a de la souffrance, souvent. C'est quand ils se sentent humiliés, l'humiliation terrible. Un casse, l'humiliation. Quand il y a de l'humiliation, quand il y a de l'angoisse, quand il y a du rejet par les autres, quand il y a de l'ennui aussi. Ces enfants qui s'ennuient, soit parce qu'ils décrochent complètement, ils n'ont pas compris, soit ils ont compris une fois, sous-entendu, arrêtez de répéter ça, j'ai compris ça. Les enfants qui ont un potentiel plus favorable que les autres, etc. Hein? La souffrance, la peur, l'humiliation, l'ennui, ça c'est des sacrés obstacles à la motivation. Je ne sais pas s'il faut faire un commentaire là. J'ai pris cette caricature pour la maman. Quand la maman va bien, l'enfant va bien aussi. Il faut regarder les limites de l'enfant, les limites de la maman. Et là, on voit combien on est un modèle d'identification pour un enfant. Si moi-même, je n'ai pas de motivation pour la vie, pour mon travail, chaque fois que je reviens du travail, je prends un peu de bouger, je ne sais pas ce que je veux dire, ma démotivation, communicatrice. Donc mon attitude a énormément d'importance par rapport à la motivation. Comment moi je m'en vais pour mon travail, externe. Quand la maman va bien, l'enfant aussi. Quand les parents vont bien. La raison pour laquelle c'est ce triangle de tout à l'heure des besoins, c'est intéressant de se les prendre pour soi. Ces besoins, dans quelle mesure moi je suis bien. Dans quelle mesure je prends soin de moi. Si je prends soin de moi, ça veut dire je m'accorde de la valeur, si je m'accorde de la valeur, ça veut dire que j'ai confiance en moi. L'enfant tape ça. Tout ce qu'on dit, pratiquement de ce qu'on dit, plutôt ce que l'enfant a, essentiellement, c'est par nos attitudes, par notre regard, par nos gestes, bien plus que par les paroles. 80-90% de l'enfant, c'est le fait par le geste, la parole, le regard, les limites du visage. Donc, si je suis bien, détendu, si j'ai satisfait la plupart de mes besoins fondamentaux, c'est super. Ça motive, ça permet. Ça rejoint ce questionnement sur quelle est ma motivation ici et qu'est-ce que je veux transmettre à l'enfant. C'est vrai que théorique, c'est facile, parce que c'est le bon moment. Je peux aussi dire à l'enfant, je suis fatigué, je suis triste. Vous voulez, je suis difficulté, moi aussi, au bon travail, je vais faire l'école. Dire, c'est que je parce qu'on ne peut pas le donner, c'est la comédie non plus. Et moi-même, en école, on est aussi. Mais quand on partage, on comprend beaucoup de choses aussi. Là, je passe rapidement, c'est juste pour faire une référence. En motivation, il y a mouvement, action, et puis dans l'émotion, il y a le préfixe et il y a le modéré du latin, mouvoir, action. Donc un lien entre motivation et émotion. J'ai parlé du message-jeu. De ce que je ressens, puis l'éducative avec l'impression de ce que l'enfant ressent, on est sûr de vraiment, la prise en compte des émotions réciproques, liées à la motivation, ça c'est un sacré moteur. C'est le quotient émotionnel, pas seulement du quotient intellectuel, mais c'est le quotient émotionnel. Prendre en compte ce que l'enfant ressent, mais parfois il ne sait pas toujours dire, parce qu'il n'est pas habitué, alors les mêmes presse, les prix des méthodes, souvent dans des petits degrés, n'utilisent pas simplement ça quand on commence une leçon, quand on commence un apprentissage scolaire, pour qu'un enfant puisse dire ce qu'il ressent. Quand il a pu dire ce qu'il a ressenti, qu'il a été entendu, soit courageux, soit santé, etc. Ce graphique là qui paraît un peu scientifique, en fait, vous regardez les deux pôles essentiels. Le pôle de la loi, des règles, des principes du cadre, et puis le pôle du lien, des relations, de l'écoute, de la valorisation. On en parlait tout à l'heure, de l'écoute aussi. Alors en fait, les meilleures conditions de motivation pour un enfant, c'est lorsqu'il y a un équilibre entre la loi et le lien. Parce qu'il y a un équilibre qui relève des règles, des principes, des exigences, du cadre, de la structure dans laquelle l'enfant se trouve. Parenthèse assez claire, c'était joli, on en parlait de la sécurité tout à l'heure. Et puis, ce qui se rapporte à l'autre pôle, c'est le lien, c'est ce qui touche justement l'aspect affectif, à la valorisation, à des aspects de la relation dans le sens émotionnel du terme, en français, quand on prend compte des sentiments, c'est des choses, etc. Alors, on est sur le registre, certains disent par du registre affectif, et puis du registre normatif. Les normes, les règles, etc. Alors, pour que ce soit équilibré, il ne faudrait pas qu'il y ait des mélanges entre les deux. Donc, autrement dit, je peux travailler et être absent très souvent dans les gens, mais ça ne veut pas dire que le soir ou le week-end, du fait que j'étais absent, je suis pas fini, je laisse mon enfant, je souffre sur les rêves, bref, je ne suis pas souvent là. Ça, c'est le piège, là, qu'on a pu voir. C'est le piège. Non, ça n'a rien à voir. Même si j'étais absent, etc., c'est important. Je ne mélange pas les deux. Je peux l'aimer, l'adorer, mais ce qui est des rêves, des normes, je peux les exiger, même si j'étais absent la journée, même si j'étais souvent absent la semaine, parce que la culpabilité dans l'éducation, c'est aussi un obstacle, justement, à des relations harmonieuses pour que l'enfant, justement, puisse grandir et se développer. Donc, ça ne va pas bien quand il y a l'excès de loi, parce que c'est trop strict, rigide, etc. On négocie bien, on ne suit pas, etc. C'est comme ça. Vous vous souvenez, le jeune qui disait, mais expliquez-moi s'il y avait des règles. Simplement m'expliquer. Je comprends. Je dois vous expliquer ça. Là, on va rentrer dans le piège de. Et depuis le temps, je dis, non, il dit aussi, arrêtez de me répéter. Donc souvent, la conduite, je vois, je vais faire le répéter. Bon, si je ne répète pas. Excès de lien aussi, hein. Excès de lien, ça ne va pas, ça veut dire que tellement je l'aime, je lui laisse presque tout faire. Alors je vous montre juste trois styles éducatifs, et puis après on échange vos questions, vos remarques. Deux styles éducatifs, liés justement à l'influence que ça a sur la motivation. Le premier, les parents décident et l'enfant obéit. Un point c'est tout. La flèche est seulement dans un sens. Même s'il faut utiliser la force, c'est comme ça. Et l'obéir, la point c'est tout. Style autoritariste, style répressif. Même s'il faut, il faut comptable. Contrairement à ce qu'on imagine, j'ai vu le résultat des études, à peu près 80%, c'est en France, tout proche, 80% des parents tapent leur enfant. Bon, c'est pas régulier, hein. Régulièrement, c'est 50%. Et sévèrement, c'est 30%. Moi, ça m'a surpris aussi, parce que je pensais que, mais dans cette fonction que j'ai eue dans le cadre de l'école, j'entends un papa avec qui on discutait parce que ça n'allait pas avec son enfant, et puis qui est arrivé à la conclusion, mais quoi, vous ne le tapez pas? Non, vous ne tapez pas. À nous, à la maison, on ne peut pas. Alors ça, c'est le style répressif qui a une conséquence, c'est des enfants, soit qui se rebellent, ou dès qu'on a tourné le dos, l'adulte est ailleurs, on ne contrôle plus rien, c'est des rats, etc. L'adolescence arrive, c'est la fume, c'est l'alcool, c'est la drogue, donc pas été entendu, tapis, mais ça veut dire, parce que c'est une négociation, ou alors c'est des enfants qui se ferment. C'est des enfants tristes, des enfants
quand ils ont peur de la nuit, etc. Et aussi, souvent même à la nuit, ils ont peur des autres, qui restent les fermes, caricatures. Je ne veux pas dire que sous un style comme ça, les enfants ne s'en sortent pas. Dans l'autre cas, c'est les enfants qui commandent, c'est l'enfant qui décide. Où on va en vacances, on va changer la voiture, est-ce qu'on fait un dîner, etc. C'est l'enfant roi. Après, ce qu'on constate souvent, c'est que les adultes, hors de la famille, ils à l'école, ou après, ils mettent l'apprentissage, ils ne changent pas de compte parce que je n'ai pas de compte ici, après, dans une autre entreprise, c'est les collaborateurs qui, je ne suis pas compris, c'est toujours les autres responsables. En résumé, voilà, c'est, les autres doivent être à mon service. Alors, idéalement, pour développer au maximum la motivation, ou offrir aux enfants les meilleures conditions de motivation, c'est tirer le résultat d'une recherche de l'Université de Lausanne, en parenthèse. C'est dit d'une autre manière, c'est une éducation coopérative, ou de style démocratique ou coopératif. Vous voyez, il y a des flèches avec vous, on se parle, on explique, on dit. Quand c'est vertical, c'est si vous voulez, ce qu'on a vu avant, c'est la loi. Je ne négocie pas sur les aspects dans la verticalité. Je m'aperçois que le parent d'adulte, il dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Il ne négocie pas la drogue, il ne négocie pas la drogue, il ne négocie pas quand on a 13 ans, une entrée en semaine d'un pays, c'est rien. Chose que je ne négocie pas. J'explique pourquoi je dis mes peurs, je dis mes soucis, je dis mes préoccupations. Mais ça je ne négocie pas. À l'horizontale, c'est quand même. Des aspects que je négocie après. Donc, je peux commencer très petit à ça. Si je n'ai pas fait avant, je peux le faire maintenant, je peux le faire trop tard. Et là, ça aide l'enfant à réfléchir. Aussi, on cherche ensemble des solutions quand il y a un problème. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu aimerais quoi, toi? Ah, moi, j'aimerais ça, etc. Alors, on discute. Moi, en tant qu'adulte parent, je comprends mieux mon enfant, je réussis mieux à connaître ses besoins, je le vois grandir aussi, je donne la parole. Donc je peux mieux m'adapter et réajuster. Parfois je rencontre pour écrire. J'apprends aussi à réajuster si je lui donne la possibilité de me parler, etc. Et à l'inverse, lui peut aussi comprendre que moi je suis un adulte, que je n'ai pas le même droit ou le même besoin ou les mêmes exigences que lui. Il y a une différence de génération entre lui et moi. Les papas copains, les mamans copines, ça ne marche pas dans l'éducation. Il a besoin de personnes, encore une fois, qui savent mettre leurs limites, savent protéger leur vie de groupe, leur idée, leur vie professionnelle, etc. Et c'est en se parlant que l'enfant découvre ça. Que maman, papa ne sont pas seulement à mon service. Et ça, ça l'incite aussi à grandir, à marcher, à se développer, etc. Pour terminer, j'aimerais juste. À nouveau, de donner la parole aux enfants. Parce que là aussi, c'était un peu leur souhait qu'ils puissent commencer et finir. Alors, ce qu'ils m'ont dit de vous dire, ne me chouchoutez pas trop, je sais très bien que je ne peux pas obtenir tout ce que je veux. J'essaye seulement. N'ayez pas peur d'être ferme avec moi, j'aime mieux ça, je me sens en sécurité. Ne me laissez pas prendre de mauvaises habitudes. Je dois pouvoir compter sur vous pour les repérer et les corriger pendant que je suis jeune. Ne me prenez pas pour plus petit que je ne suis. Cela me fait agir stupidement pour montrer que je suis grand. Même petit, je suis quand même grand pour comprendre, lorsque vous prenez le temps de m'expliquer. Quand j'ai fait une bêtise, si c'est possible, ne me corrigez pas en public. Ne m'humiliez pas, c'est terrible. Je comprends beaucoup mieux lorsque vous me parlez doucement, dans l'intimité. N'oubliez pas que je ne peux pas toujours m'exprimer aussi bien que je le voudrais. C'est pour ça que je ne suis pas toujours précis dans ce jeu. Ne me laissez pas croire que vous êtes presque parfait, que vous ne faites presque jamais d'erreur. Cela me donne l'impression que jamais je n'arriverai à vous corriger. pas trop vite que je ne dis pas la vérité. Si je mens, c'est quand j'ai peur. Quand je perds confiance, je ne sais plus ce que je raconte. N'oubliez pas que j'aime faire des expériences. Elles ne sont pas toutes réussies, mais je ne veux pas vivre sans elles. Je vous demande donc d'être patient. N'oubliez pas, je grandis rapidement. C'est vrai qu'il est difficile parfois de me suivre. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Et enfin, n'oubliez pas que je dois autant apprendre à être aimé qu'à aimer.